Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Après Jean-Pierre Gorge, Catherine Monory et Denis Barbe, c'est au tour de Vincent Chevrollier, tête de liste de Lutte ouvrière, de nous présenter ses idées, pourquoi pas son programme, et puis nous allons échanger autour de l'actualité. Voilà, Vincent Chevrollier, bonjour.
Bonjour.
Alors les gens vous connaissent, je suis sûr que les Chartrains vous connaissent, parce qu'on vous voit quand même beaucoup distribuer le journal de Lutte ouvrière, tracter. Je vous ai même vu, moi, à Caen, il y a quelques années, oui. À Caen, il y a quelques années, faire ce travail. Lutte ouvrière, c'est vraiment un parti de militants, non?
Tout à fait, ouais, un parti où, comme on dit, on mouille la chemise, parce que nous, notre façon de militer, de défendre nos idées, c'est d'aller à la rencontre des gens, du monde du travail, et là où on vit, ou même ailleurs, puisque vous m'avez vu à Caen, c'est que j'allais filer un coup de main à mes camarades de là-bas.
Ouais. Si on va vous présenter, on va parler de vous quand même, que les gens puissent apprendre à vous connaître. Vous êtes né, je crois, en Bretagne et vous y avez grandi.
Oui, tout à fait, ouais, à la Gerge de Bretagne, et j'habitais à Baie, un petit bled à côté de Vitry, Rennes, dans ce coin-là.
Oui, et près de la Vilaine alors, bon, pas très loin.
Pas très loin, près d'un affluent de la Vilaine, plus exactement.
Ouais. Et le militantisme politique est venu comment dans votre vie?
Oh bah, est-ce qu'on peut le dater à un moment ou à un autre? Vous savez, quand on est gamin, on est sensible par l'éducation qu'on a. Moi, je viens d'une famille de petites gens, hein, donc on est sensible dès quand on arrive au collège, puis plus tard au lycée, à ce monde qui nous entoure, ce vaste monde. Et puis on est marqué par ce qui se passe à l'époque où on grandit. Moi, au collège, c'était SOS racisme, la bagarre contre le racisme. Vous savez, ces opérations sac de riz avec Daniel Balavoine, des choses comme ça qui sont, malgré leurs limites politiques évidentes, on va dire un peu une prise de conscience. Et puis après, bah, on grandit, on fait mûrir ses idées, on rencontre des idées qui nous conviennent le plus. 86, ce qu'on a appelé le mouvement de Vaquet, souvenez-vous. Et puis après, bah, moi, j'ai rencontré aussi, au travers de camarades, notamment de Lutte ouvrière, les idées communistes révolutionnaires qui m'ont paru être la réponse la plus conséquente à des gens qui veulent changer la société, qui sont révoltés contre le fonctionnement de cette société.
Alors, oui, je veux dire, vous avez parlé de SOS Racisme et de la lutte contre le racisme. Vous auriez pu basculer au PS à ce moment-là, parce que ça a été un vivier, SOS Racisme, pour le Parti Socialiste. Mais il y a eu, ça a continué votre cheminement politique, intellectuel, vous a conduit.
Oui.
Je peux le dire comme ça, en résumé, vous a conduit vers le communisme.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, moi j'ai été élevé dans une famille de petites gens très croyants, pratiquants, ça aurait pu m'emmener tout à fait ailleurs. Mais quand...
Où vous êtes aujourd'hui.
Exactement. Mais en fait, bah voilà, ça n'empêche pas que les idées, la révolte, elle est là. Et après, vers où on se dirige, c'est aussi une histoire de rencontre, mais c'est aussi une histoire de réflexion et de se poser des questions. Hein, effectivement, vous évoquiez SOS Racisme qui fut un vivier, qui fut même un instrument du Parti Socialiste. Bon, voilà, il suffit de voir le parcours de Harlem Désir, ce qu'il est devenu, ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Bon.
Et Julien Drey. Oui.
Et Julien Drey, voilà. Bon, bah, ça montre aussi que dans ces mouvements-là, à l'image d'autres mouvements par la suite, comme je pense à Attaque ou des choses comme ça, eh bien, vous savez, il y a la direction politique donnée par les dirigeants, avec ce qu'ils ont dans la tête, politiquement, et puis il y a les gens à la base, ce qu'ils veulent, par quoi ils sont choqués, par quoi ils sont touchés. Et quand ils se posent vraiment les questions, que ce soit dans l'antiracisme, que ce soit dans le féminisme, que ce soit dans l'écologie, moi, j'ai trouvé que quand on se pose les questions jusqu'au bout, eh bien, on se pose rapidement la question de changer de fond en comble cette société, d'aspirer à un monde où il n'y aurait plus de classe sociale. Ça, c'est effectivement les idées communistes.
Oui. Vous auriez pu prendre une carte au Parti communiste. Et pourquoi pas? Pourquoi ce petit parti, la Lutte ouvrière?
Eh bien, précisément parce que je suis communiste et parce que Lutte ouvrière est un parti, une organisation, un parti, on aimerait être un parti, on est une petite organisation qui se revendique du communisme, notamment dans ces élections. Nous sommes les seuls à nous mettre derrière le drapeau du communisme. Pourquoi pas le Parti communiste à une époque où j'ai commencé à me poser des questions? Bah, parce que justement, ce n'était pas si clair de la part de ce parti qui s'est souvent mis derrière le Parti socialiste. ou qui a rangé petit à petit ses idées communistes. Voilà, et puis il y a une histoire aussi, le stalinisme, c'est pas du tout mon camp, je suis trotskiste.
Ah oui, donc Lutte ouvrière est un parti trotskiste, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Voilà, notre histoire, c'est d'avoir été un peu les héritiers de ceux qui ont dénoncé, dès les années 20, dès les années 30, en URSS comme ailleurs, le stalinisme, c'est-à-dire la négation quasiment la plus complète du communisme. Voilà, notre courant est issu de cette génération de militants, oui, avec à leur tête Léon Trotsky.
Lutte ouvrière est née après 68, dans la mouvance de mai 68.
Lutte ouvrière s'appelait Voix ouvrière avant 68, mais comme d'autres partis, comme la Ligue communiste, ils ont été dissous en 68. Après les événements de 68, la Ligue communiste est devenue la Ligue communiste révolutionnaire, Voix ouvrière est devenue Lutte ouvrière. Avant cela, ce mouvement existait depuis la Deuxième Guerre mondiale à peu près, où un groupe de militants s'est posé des questions, avec notamment ce qui fait l'identité de Lutte ouvrière, d'essayer de militer dans la classe ouvrière et de ne pas la laisser, en tout cas vu le contexte de l'époque, dans le pré-gardé, on va dire, du Parti communiste et de la CGT de l'époque.
Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous êtes présent dans le monde ouvrier, Lutte ouvrière?
Oui, bien sûr, ça a marché parce que inlassablement, avec détermination, les générations de militants qui m'ont précédé ont milité vers la classe ouvrière, contre vents et marées, contre les coups même des fois de partis réformistes, mais ont continué. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est énormément implanté, et hélas, si aussi on existe, c'est hélas du fait de la politique du Parti communiste qui s'est discrédité dans pas mal de bastions de la classe ouvrière au cours des années 70-80 avec la fameuse Union de la gauche.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout en communion d'idées ni de pensées avec, par exemple, le Front de gauche qui présente un candidat que nous avons reçu dernièrement à Chartres.
C'est bien qu'on ait discuté, que vous ayez évoqué juste avant SOS racisme ou des choses comme ça, parce que c'est pas tout noir, tout blanc, la vie. Moi, je me sens très proche des gens du Parti communiste. J'allais dire du Front de gauche, oui, aussi, bien sûr. On est côte à côte dans les bagarres, dans une petite ville comme Chartres, marquée par sa sociologie, on va dire. On est côte à côte. On a pu faire des choses ensemble, même électoralement. Maintenant, on est côte à côte. Pour autant, ça n'empêche pas la discussion franche et vive. Car on n'est pas d'accord, on ne défend pas les mêmes choses, notamment dans ces élections, il nous a semblé vital, évident pour nous de faire notre liste tout seul, parce qu'on ne dit vraiment pas la même chose que le Front de gauche dans ces élections.
Alors justement, on va aborder le contenu de votre programme. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux Chartrains et aux Chartraines?
Eh bien, moi je me présente à ces élections pour, comme le dit notre slogan, faire entendre le camp des travailleurs. Voilà, parce que nous, ce qu'on pense, que avec l'aggravation de la crise, avec les coups de plus en plus forts contre la classe ouvrière, contre le monde du travail, tous les plans sociaux qui ont lieu depuis plus d'un an, avec ce gouvernement socialiste et les Verts qui accompagnent les attaques du patronat, qui aident le patronat, ça a été le pacte de compétitivité, un cadeau d'à peu près 20 milliards au grand patronat, puis le pacte de le dernier, là, si j'ai perdu le nom,
de responsabilité,
merci, un cadeau d'à peu près 30 milliards offert sur un plateau d'argent au patron. Dans ce contexte-là, il nous semble évident qu'il faut plus que jamais préparer les travailleurs à se défendre. Et défendre le camp des travailleurs d'une façon purement locale, ça nous semble être, comme je le disais à vos confrères, de l'enfumage. C'est endormir les travailleurs. C'est irresponsable de juste parler du local, de la largeur des trottoirs à Chartres, de la maison pour tous, de tel ou tel endroit, des lignes de bus, qui sont des choses évidemment intéressantes et qui touchent à la population. Pour autant, nous, on tient à parler aux travailleurs de leurs intérêts plus largement. Car qui est-ce qui décide des licenciements? Ce n'est pas dans l'enceinte d'un conseil municipal, ce n'est pas à Chartres. Et vous savez, si les principaux candidats de Chartres, comme Jean-Pierre Gorge ou Madame Monory et David Lebon, tiennent tant à parler du local, c'est aussi une façon pour ne pas faire de politique, hein, pour ne pas parler de ce qui se fait au niveau national. Actuellement, pour le Parti Socialiste, et puis Jean-Pierre Gorge, qui lorsqu'il était enfin il n'était pas au gouvernement, mais quand ses amis étaient au gouvernement, il a accompagné sans sourciller toutes les attaques de son parti contre la classe ouvrière. C'est pour ça hein, qu'ils veulent pas parler du local. Alors, qu'ils veulent parler du local, pardon. Précisément, nous, on tient à parler des responsabilités des grands groupes capitalistes, et puis du gouvernement, pour donner des idées, des outils à la classe ouvrière pour se défendre. Et ce qu'on met en avant, c'est ce qui serait vital. Interdire les licenciements, contrôler la production, lever le secret bancaire. On sait bien que ce sont des slogans qu'on lance comme ça. Pour autant, on est sûr, on est convaincu qu'il faudra que la classe ouvrière reprenne ces idées-là. Et si elles ne sont pas défendues dans une période de crise telle que celle qu'on vit, alors on s'enfonce un peu plus.
Vous avez choisi finalement de vous saisir de l'élection municipale comme tremplin, c'est ça, pour diffuser plus largement vos idées ?
Oui, comme tremplin, comme tribune, si
comme
on
tribune.
Veut. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'on est pour avoir des élus, on espère avoir des élus à Chartres comme ailleurs. Mais on pense que plus il y aura de gens à s'exprimer sur nos idées, à montrer qu'ils ne se laissent pas, que les travailleurs ne se laissent pas lanterner par les uns, par les autres, eh bien, ça fera avancer l'opposition ouvrière au gouvernement. Parce que vous comprenez, actuellement, la seule opposition présenté comme tel au gouvernement, c'est l'opposition des patrons, que ce soit les bonnets rouges, que ce soit aussi les manifs pour tous, là, l'opposition de droite et d'extrême droite. Eh bien, nous, on veut représenter un autre camp, l'opposition ouvrière. Et c'est avec cet objectif qu'on constitue des listes dans les élections municipales, dans les grandes villes et les villes ouvrières pour faire entendre, comme on le dit, le camp des travailleurs. C'est ce qui se passera aussi avec les élections qui vont suivre bientôt, les élections européennes.
Ouais. Alors, vous aviez il y a quelques années, j'allais dire, un adversaire de taille, le PC. Est-ce qu'aujourd'hui, votre adversaire, c'est pas le Front National ? Est-ce que le Front National, je regardais la composition de la liste du Front National à Dreux, eh bien, en grande majorité, ce sont des ouvriers, ce sont des prolétaires, ce sont aussi des chômeurs qui ont été séduits par les idées ou le programme du Front National, qui ont peut-être l'impression de ne plus être entendus par ailleurs. C'est un sacré défi pour vous ?
Alors avant d'enchaîner sur le Front National, je reprends ce que vous avez dit, notre principal adversaire il y a quelques années n'était pas le PC, n'a jamais été le PC. Jamais moi ou mes camarades, même concurrents, on ne s'est jamais réjoui de la chute électorale du Parti communiste, mais vraiment jamais. On fait attention, on a une attitude vis-à-vis du PC, on ne colle pas nos affiches sur eux, parce qu'on respecte les militants. Ils suivent une politique qu'on critique. Qu'on dénonce parce qu'on pense qu'elle mène à une impasse, à l'image de suivre Mitterrand dans les années 70 et 80, suivre Jospin et maintenant suivre Mélenchon. Pour autant, ce ne sont pas des adversaires. Je suis content qu'ils aient pu faire leur liste à Chartres et défendre leurs idées.
Mélenchon, non ?
Ah non, Mélenchon, ce ne sont pas nos idées, bien sûr. C'est quelqu'un qui emmène la classe ouvrière dans une impasse, je pense. Dire « votez pour moi, ça ira mieux », c'est pas les idées communistes. D'ailleurs, il ne s'est jamais revendiqué des idées communistes. Non, alors nos vrais adversaires, oui, le Front National, vous avez raison, c'est dramatique de voir ce qui se passe. Je regardais le même article dans l'Écho sur la liste du Front National à Dreux. Effectivement, il y a des travailleurs, ils se trompent. Voter, ou a fortiori se mettre sur une liste Front National quand on est un ouvrier, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est aller avec ses ennemis, des ennemis de classe. Il faut comprendre pourquoi ils en arrivent là, pourquoi il y a cette telle confusion politique. Eh bien, moi, je pense que les principaux responsables, c'est cette gauche au gouvernement qui s'est fait élire, hélas, avec l'appui de Mélenchon et du Parti communiste, en disant que le changement, ce serait maintenant. Mais tout le monde savait très bien que dans cette période de crise, le gouvernement socialiste continuerait la politique au service des possédants, et donc la politique de Nicolas Sarkozy, et même l'aggraverait d'une certaine façon. Vous savez, le MEDEF est tout content des derniers pactes, le pacte de responsabilité. Il l'a dit, on travaille très très bien avec les socialistes, au moins c'est plus facile. Ça, c'est un représentant du MEDEF de l'Anjou, je crois, qui a dit ça. Mais même Gattaz, le patron des patrons, s'est fortement réjoui de ce pacte. Ben, vous voyez dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe dans la classe ouvrière ? Les gens sont déboussolés, ils critiquent la gauche, cette gauche au gouvernement qui fait pareil, qui les attaque, qui augmente la TVA, qui augmente les impôts, qui baisse les retraites. Bon, est-ce qu'ils vont vers le Parti communiste ? Bah non, parce que le Parti communiste, hélas,
n'attire plus.
A manqué de virulence dans sa critique de Hollande, a même appelé à voter pour lui. Nous, on pense justement que dans ce contexte, il faut plus que jamais faire entendre les idées communistes, car c'est les seules vraies idées contre le danger de l'extrême droite. Mais l'extrême droite, si vous voulez aller par là, si on veut en discuter, n'est-elle pas déjà au pouvoir avec Manuel Valls, avec toutes ses diatribes anti-Rome? Il remue le fumier là, en faisant tout ça. N'était-elle pas au pouvoir avec Guéant et Hortefeux? C'est peut-être pas qu'un nom, l'extrême droite. C'est un courant d'idées qui s'infiltre et qui est utilisé actuellement aussi par le Parti Socialiste, et c'est très dangereux.
Vincent Chevrollier, imaginons demain Lutte ouvrière arrive au pouvoir, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? À quelle société et de quelle société rêvez-vous? C'est alors, large, hein, et on n'a plus que 9 minutes.
C'est une belle question. Vous parlez des municipales, vous parlez du pouvoir en général?
Alors, je parlais du pouvoir en général, puisque vous me l'avez dit, hein, vous n'avez pas peut-être de programme très précis pour les municipales,
oui,
vous voulez un changement global.
Je peux quand même, si vous permettez, puisqu'on est dans le cadre des municipales, à répondre, parce qu'on ne veut pas être langue de bois sur les municipales. On est pour avoir des élus. Bon, si on était à la tête de la mairie, que ferait-on? Eh bien, nous, on s'adresse aux travailleurs qui se bagarrent, qui veulent se battre. Eh bien, déjà, toute notre action, notre propagande irait dans ce sens-là, s'adresser aux travailleurs en bagarre. Le maire actuellement, ceux qui vont lui succéder s'il est battu, ils accumulent les réceptions avec les petits fours, avec le patron de L'Orillard, le patron de Novo Nordisk, comme on l'a vu récemment. Bah pas nous, fini les petits fours. Nous, c'est avec les travailleurs qui veulent se battre et apporter des idées. Dans l'enceinte, apporter des idées qui vont en ce sens, pardon. Dans l'enceinte du conseil municipal, être les yeux, la voix, les oreilles des travailleurs pour défendre les idées qui vont contre la résignation, défendre des idées de dignité et de fierté ouvrière et retrouver les outils de la lutte. Ne pas endormir les gens avec des programmes électoraux qui ne seront probablement pas tenus, là, quand on voit tout ce qui est annoncé sur le local, à la Catherine Monory qui parle d'une heure de parking gratuit. Chiche, bah, on peut dire deux aussi si on y est. Qu'est-ce que c'est que ce déballage? Et c'est pour ne pas parler des vrais problèmes. Alors, pour répondre plus largement à votre question, lutte ouvrière au pouvoir, je ne sais pas trop quel sens ça a. Nous, on ne dit pas voter pour nous, tout ira bien. Nous, on dit aux gens, prenez en main votre destin.
Prenez, c'est ça, oui.
Voilà, c'est là l'avenir. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est une phrase de Karl Marx qui est vraiment d'une grande actualité. Comme prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Nous sommes internationalistes, nous sommes contre une société de classe. On pense que l'humanité, depuis plus d'une centaine d'années, hein, depuis l'avènement du capitalisme, elle est capable de surmonter la division en classe sociale. Ça veut dire effectivement une autre organisation économique qui ne repose pas sur la propriété privée des moyens de production, sur des minorités, une minorité qu'on peut appeler socialement la bourgeoisie, qui décide de la production pour l'humanité en fonction de son profit, en fonction de sa rentabilité. Vous savez, on peut nourrir près de 10 fois la planète, il me semble. On en nourrit à peine la moitié. Pas parce que ce serait techniquement possible, mais parce que ça n'est pas rentable. Des enfants en Afrique qui meurent de maladies qu'on sait parfaitement guérir. Et même dans un pays comme la France, un des pays les plus riches du monde, eh bien, il y a des gens qui meurent de froid dehors alors qu'il y a des logements vides. Il y a des gens qui ne peuvent pas se payer des médicaments alors qu'on est un des 5 pays les plus riches du monde. Cette société-là, elle va à l'envers. Il faut ôter à la bourgeoisie son pouvoir de nuisance. Ça passera par des luttes. Effectivement. Alors, nous, notre ambition, c'est d'outiller les gens pour le jour où ils vont se réveiller, de tenir le drapeau prêt pour le jour où ils vont se réveiller, où ils retrouveront le chemin des luttes collectives.
Est-ce que vous avez, je sais que le Parti communiste a abandonné il y a déjà pas mal de temps, il y a peut-être 20 ans, je crois, la dictature du prolétariat, est-ce que Lutte ouvrière, par exemple, établirait ce qu'on appelait la dictature du prolétariat?
Nous nous revendiquons de la dictature du prolétariat. Cette phrase de Karl Marx et Friedrich Engels, il faut rappeler ce que c'est, ce que ça veut dire. La dictature du prolétariat, c'est une société où c'est la classe ouvrière, le prolétariat, donc au sens le plus large, c'est-à-dire la grande majorité de la population, qui, ce serait cette grande majorité de la population qui n'a comme source de revenus que sa force de travail, ce serait elle qui gouvernerait. Alors, ce serait une démocratie bien plus grande que la démocratie de la bourgeoisie dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que c'est que la démocratie de la bourgeoisie dans laquelle nous vivons, sinon une dictature de la bourgeoisie ? Si Marx avait utilisé cette formule, c'était justement pour rappeler ce que c'est, même dans un pays riche comme le nôtre, que la démocratie de la bourgeoisie. Il s'agit ni plus ni moins d'une dictature de la bourgeoisie. Faire de la politique dans une usine, c'est interdit. Les conditions de vie des travailleurs dans les usines, il faut choisir quand on a 5 minutes de pause entre aller aux toilettes ou prendre un café ou fumer une clope. C'est de pire en pire. Les accidents du travail dans les boîtes et tout, on n'en parle pas beaucoup de tout ça, mais c'est plusieurs morts par semaine dans un pays comme la France, il me semble, je ne dois pas me tromper de beaucoup. Bon, bah ça c'est une dictature, bien sûr. La violence, elle est du côté des possédants. Donc, je pourrais étaler encore plein de chiffres sur les femmes battues, les enfants battus, etc. Bon, bah, nous on se revendique d'une société, effectivement, où la priorité, ce sera les intérêts vitaux de la grande majorité de la population, qu'on appelle le prolétariat. Alors, dictature, évidemment, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais c'est...
Ça veut dire quoi ? Ça ressemble à quoi ? Parce que ça fait un peu peur, quand même.
C'est un peu pour faire le pendant à cette dictature de la bourgeoisie dans laquelle nous vivons actuellement. Qui est-ce qui a le pouvoir ? C'est la grande bourgeoisie, et ils font ce qu'ils veulent. La bourgeoisie française fait ce qu'elle veut. Elle impose des conditions de vie de plus en plus dures. Nous, on est pour des mesures contraignantes contre les classes possédantes, bien sûr. Alors, des mesures contraignantes, bah, qui dit mesures contraignantes, hein, comme il y en a maintenant sur des millions de travailleurs, la TVA qui augmente, les impôts qui augmentent, les salaires qui ne bougent pas, ça, c'est des mesures contraignantes. Des mesures contraignantes contre les classes possédantes, bon, bah, c'est une expression, dictature du prolétariat. C'est imposer, cette fois-ci, que la peur change de camp, qu'elle soit du côté des riches.
Ça veut dire de la répression aussi, alors, éventuellement ?
Il n'y a peut-être pas besoin de répression. Actuellement, quand vous achetez votre baguette, on ne vous force pas à payer la TVA en plus. Elle est là, vous la payez, au même titre que Madame de Bettencourt. Bon, ce n'est pas normal. Vous n'avez pas le même salaire, vous n'avez pas la même place dans la société. Un ouvrier et la famille Peugeot. Bon, est-ce qu'on est contraint pour aller payer la TVA avec un flingue derrière la nuque ? Non, c'est comme ça. Eh bien, on pourrait imposer des mesures qui s'imposerait d'elle-même aux classes les plus riches, bien sûr. On contrôle votre production. On vous interdit de licencier. Ah, et les congés payés en 36, c'était pas vécu comme une mesure contraignante par la bourgeoisie ? Bien sûr que si. Dictatoriale ? Oui, si on veut. Car on les contraint. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là, oui. Alors, demain, interdire de licencier, bien sûr, répartir le travail entre tous sans baisse de salaire. Des embauches massives. Vous savez, l'hiver, on interdit la fameuse trêve hivernale de mettre les gens dehors. Parce que c'est l'hiver, les expulsions, la trêve des expulsions. On est dans un long hiver qui pèse sur la classe ouvrière. Ce long hiver s'appelle la crise économique. C'est terrible. Ça devrait être interdit de licencier. Ah, ça coûte du fric, bien sûr. Bah, prenons-le où il est. Prenons l'argent où il est. Prenons-le dans les caisses des banquiers, prenons-le dans le train de vie des grands bourgeois, eh oui, dans leur maison, dans leur yacht, dans leur parachute doré, dans leur jet privé. Ah oui, bah là, ils vivront ça comme une dictature, effectivement. Mais actuellement, la dictature, elle pèse sur les travailleurs.
Si, par exemple, vous arrivez au pouvoir, est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on laisse tomber l'euro, ou est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous prévoyez à ce niveau-là, par exemple ?
Bah, nous, on est internationalistes. On n'est pas pour quitter l'euro. On n'est même pas pour marcher dans toute cette démagogie électorale que reprennent pas mal de partis, y compris des partis qui se disent de gauche, pour dire que c'est l'Europe la source, l'origine de tous les problèmes. Ben non, pas du tout. On sera pour une Europe des travailleurs. Ça a été un progrès d'abolir toutes les frontières. Incomplet, parce que ça profite surtout aux plus riches, mais quand même pour les travailleurs, même une monnaie commune, comprenez, c'est quand même mieux d'avoir une monnaie commune dans toute l'Europe. Et on n'est pas pour revenir au franc. Qu'est-ce que c'est que cette idée réactionnaire ? Il faudra toujours se bagarrer pour les salaires en euros ou en francs. Bien sûr, ils en ont profité pour arrondir les prix au-dessus, effectivement, mais qui est-ce qui mène la danse ? De toute façon, c'est les patrons. C'est que la banque soit nationale ou européenne, c'est dirigé contre la population. Donc, l'Europe, des États-Unis socialistes d'Europe.
Vincent Chevrolier, merci.
Mais c'est moi qui vous remercie.